Bonjour à tous et à toutes. Alors, c'est pas grave si vous n'étiez pas là ce week-end. Inutile de vous mordre les doigts. Dans tous les cas, ça repousse pas. Donc faites attention. Alors, ce matin, j'aimerais simplement vous parler du don de la foi. La Bible en parle bien sûr. Il n'y a qu'une seule fois que ce verset apparaît, ou du moins ce don apparaît une seule fois. Donc, dans 1 Corinthiens 12 au verset 8, il dit en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, et, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit. Hier, on a vu ensemble ce que c'était le don de guérison. Ce matin, j'aimerais voir avec vous le don de la foi. La foi donc fait partie des 9 dons qui sont cités dans 1 Corinthiens 12, donc ce que la Bible, ce que l'original appelle charisma. Donc charisme, c'est un don qui vient de Dieu, c'est Dieu qui donne ce don. Mais si on regarde bien, c'est plus un don que le Saint-Esprit donne à chacun. Et il fait partie des 3 dons de puissance, parce que on les a classés en catégories. Donc, il fait partie des dons de puissance, à savoir, donc il y a la foi, il y a le don des guérisons et le don d'opérer des miracles. Voilà, ça c'est juste comme introduction. Après, ce qui est important de voir, c'est que comme il n'apparaît qu'une seule fois sous forme de don, il a d'autres implications ailleurs. On va essayer de voir ça, mais la chose qui est importante, c'est que le mot foi apparaît de 3 différentes façons dans les évangiles. Ce n'est pas le même mot qui est utilisé à chaque fois. Et vous allez voir, à chaque fois, c'est vraiment différent. Donc, on va essayer de voir ce premier mot concernant la foi, c'est le mot pisteo. Le mot pisteo veut dire simplement croire, avoir la foi, se confier, bon, être un croyant. Au fait, c'est une foi assez générale, assez basique pour la vie de chacun d'entre nous. La foi est indispensable pour nous qui sommes croyants, sinon ça serait exactement comme si une voiture n'avait pas de carburant. Aussi belle puisse-t-elle être, si elle n'a pas de carburant, elle n'ira nulle part. Donc nous avons besoin de foi pour avancer, pour progresser. Par exemple, ce mot pisteo, il apparaît dans des versets comme celui-là, Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Donc c'est vraiment la base de notre relation avec Dieu. Nous demandons quelque chose dans la foi, nous allons le recevoir. C'est ce mot pisteo, nous allons le recevoir. C'est la moindre des choses. Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Donc tous ceux qui croient en Jésus doivent avoir des signes qui les suivent. C'est obligatoire. C'est comme ça, c'est le minimum de notre foi et de notre marche avec Jésus. C'est une fois que nous venons à lui, même le premier jour, ces signes doivent nous suivre. Ils ne nous précèdent pas, mais ils nous suivent. C'est-à-dire, c'est nous qui partons et eux, ils viennent derrière. Hein? C'est difficile, mais c'est comme ça. On ne peut pas inverser les choses, on ne va pas attendre que les choses se fassent pour qu'on commence à croire. Ça ne marche pas comme ça. Donc, on a l'autorité de chasser les démons, de parler de nouvelles langues, de saisir, de boire des breuvages mortels, d'imposer les mains aux malades. Et les malades, il ne dit pas peut-être qu'ils sont guéris, il dit qu'ils seront guéris. À cause de quoi? À cause de cette foi, de ce mot pisteo. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Après, le deuxième mot, c'est le mot oligopistis. Et vous allez voir que c'est là que ça coince pour la majorité d'entre nous, pas loin de 100%, j'espère pas. C'est Jésus qui utilise ce mot, il l'utilise 5 fois dans les évangiles. Il veut dire simplement peu de foi, une petite foi, ou croyant trop faiblement. Ce n'est pas de l'incrédulité, c'est une foi qui est en panne. C'est un petit peu comme un pneu quand il commence à perdre de l'air. Quand il est sous-gonflé, il devient un danger. Et notre foi, quand elle n'est pas gonflée à bloc, elle n'est pas efficace. Donc, je reviens à cette image de pneu, c'est-à-dire avec un pneu sous-gonflé, on n'a pas... On, on a pas On n'a pas intérêt à rouler très vite parce que un accident est vite arrivé. Alors Jésus, il cite ce mot oligopistis, Matthieu 6, 30, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous revêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ?» Gens de peu de foi. Vous savez, des fois c'est très difficile de comprendre l'attitude de Jésus. Autant il apparaît comme le Seigneur qui est plein de compassion, il est ému de compassion, et je l'ai dit ce week-end, quand il parle de compassion dans les évangiles, ça veut dire être remué dans ses entrailles. Il est bon, il est miséricordieux, il est plein de compassion. Autant, concernant la foi, il n'est vraiment pas tendre. À chaque fois qu'il y a eu une panne de foi chez ses disciples, il les a grondés, même sévèrement. Donc, il s'attend à ce qu'on ait une foi, et une foi totale. Il n'accepte pas, il a du mal à accepter quand notre foi, elle chancelle et quand elle vacille. Donc ici, il parle de l'herbe. Si Dieu revêt ainsi l'herbe, donc des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, quelque part, il est en train simplement de dire que vous avez plus d'importance aux yeux de Dieu que cette herbe qui est magnifique, ce champ qui est magnifique, nous avons plus de valeur aux yeux de Dieu. Le deuxième passage, Matthieu 8, 26, il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ses disciples venaient de vivre une expérience assez effrayante, assez terrorisante. Au fait, ils auraient pu perdre leur vie dans cette tempête. Au lieu de se lever et de leur dire « Ne vous inquiétez pas, je suis là », c'est comme un petit peu les enfants, quand ils paniquent, les parents disent « Ne t'inquiète pas, je suis là, tout va bien, le tonnerre a grondé, les éclairs, vous savez comment ils sont les enfants ?» Non, ils se lèvent et ils grondent ses disciples. Pourquoi vous avez eu peur? Pourquoi vous avez réagi comme ça? Gens de peu de foi. Ce n'est pas des félicitations. Gens de peu de foi. Il se leva et il a calmé la mer. Ensuite, troisième passage, Matthieu 14, 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Oligopistis, pourquoi tu as douté? Homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Parce que Pierre, il a commencé à marcher sur l'eau avec une foi totale et petit à petit, donc sa chambre à air a commencé à perdre de l'air et il a coulé. Voilà, donc c'était pas du tout la bouée de sauvetage, il a coulé avec. Et Jésus, là aussi, n'a pas du tout été tendre avec lui. Pourquoi tu as douté? Pourquoi tu as douté? Quelque part, il ne s'attend pas à ce qu'on doute. Il s'attend à ce que notre foi soit linéaire, constante. Il ne faut pas qu'elle perde de l'altitude ni de vitesse. Un autre passage, donc Matthieu 16 au verset 8, Jésus l'ayant connu, dit « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain ?» Là aussi, c'est le mot « oligopistis ». À cause de quoi ? Parce que vous n'avez pas pris assez de pain et vous avez douté, gens de peu de foi, gens de peu de foi. Le dernier passage, donc, on vient de le lire, donc il apparaît une autre fois dans Luc 12, 28. Mais si on essaye de schématiser donc, les quatre ennemis de la foi que Jésus vient de citer, la première chose, ce sont les inquiétudes. Ce sont les inquiétudes, c'est-à-dire... L'inquiétude ne peut pas marcher avec la foi. S'il y a quelque chose qui tend à tirer notre foi vers le bas, ce sont nos inquiétudes. Et on s'inquiète tous pour mille et une choses. Je sais que ça ne vous concerne pas, mais je le disais au cas où. Même ce deuxième, la peur. La peur et les différentes phobies. On a tous peur de quelque chose. Or, on ne peut pas, je veux dire, on ne peut pas avoir la peur et être inquiet en même temps, avoir la peur en même temps. Ça ne marche pas. Ou on a la foi, ou on a les autres. Et il parle aussi de différentes phobies et il parle de lâcheté. Quand nous doutons, il nous traite de lâches. Il vous dit que Jésus n'est pas toujours tendre. Les scientifiques ont dénombré plus de 2000 phobies qui existent. Alors sur les 2000, laquelle ne vous concerne pas? La peur de la souris, de l'araignée, la peur de tomber, la peur du noir, la peur de ne pas se réveiller le matin, la peur de perdre ses clés, la peur de perdre son chéquier, sa carte bleue, la peur de mourir, la peur de perdre un être cher. Toutes ces phobies, toutes ces peurs font que notre foi ne peut pas grandir. Oligopistis, c'est ça. Ensuite, donc je ne fais qu'une synthèse, le doute ne favorise pas la foi à éclore, à grandir et à triompher. Et dernière chose, les raisonnements. On dirait que Jésus est français, les raisonnements. Pourquoi raisonnez-vous entre vous? Parce qu'on a peur de manquer, on a peur de ne pas avoir assez, on a peur de ne pas pouvoir faire face à toutes nos obligations, de toutes les factures qu'il faut payer, on a peur des maladies, on a peur des catastrophes, on a peur de mille et une choses, et ça résonne à l'intérieur, on est en train de réfléchir. Mais comment Dieu va-t-il faire pour intervenir? J'ai tel problème, je veux savoir comment Dieu va faire, parce que je ne sais pas comment ça va se passer. À partir du moment où je commence à raisonner, déjà, j'ai annulé. Il n'y a aucune possibilité pour que Dieu intervienne. Au fait, le terrain sur lequel il veut nous emmener, c'est un terrain d'une confiance aveugle. D'une foi aveugle comme les enfants, il croit simplement. Si vous ne devenez pas comme des enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Donc c'est important qu'on puisse grandir grandir et être libéré de ces quatre niveaux, de ces quatre ennemis qui nous pourrissent la vie, même en Alsace. Les inquiétudes, la peur, le doute, les raisonnements. C'est ces quatre choses, je crois que peut-être qu'il est même inutile d'aller plus loin dans l'enseignement. Si on n'a pas réglé ces quatre choses-là, si on n'a pas appris à se décharger de ces choses-là, alors, on n'ira nulle part. Notre foi va toujours rencontrer des problèmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment, Jésus, dans ces quatre choses, il n'a jamais impliqué le diable. Il n'a jamais impliqué le péché. Il n'a jamais parlé de malédiction. Il n'a jamais parlé d'opposition. Il n'a jamais parlé de toutes ces choses-là que nous disons dans nos églises tous les jours. Il y a de l'opposition. L'opposition, elle est chez toi. Si je me base sur ces quatre déclarations, l'opposition n'est pas à l'extérieur, le problème, il est à l'intérieur. C'est mes inquiétudes, c'est mes peurs, c'est mes phobies et c'est mes raisonnements. Voilà, maintenant on va essayer de rentrer un peu plus en profondeur, donc on va parler de ce don de foi. Pour ma part, en tous les cas, Pendant des années, pour moi, c'était quelque chose qui frisait un petit peu le mysticisme. La foi, c'est tellement super spirituel que c'était très difficile d'accéder, d'avoir vraiment ce don de foi infaillible. Et pourtant, c'est pas du tout ce que la parole de Dieu dit. Le troisième mot, c'est le mot pistis. Et c'est Jésus, donc c'est le grec qui utilise. Donc on avait eu pistéo, on avait eu oligopistis et maintenant pistis. Et je vous fais confiance de ne pas confondre avec pastis. Ça n'a rien à faire. Hein. Voilà. Alors, pistis veut simplement dire fidélité, grâce, preuve certaine, une conviction et un engagement. Et ce qui est étonnant, c'est que quand j'ai cherché les Écritures, à un moment donné, Jésus disait « croyez en Dieu ». Et ce verset « croyez en Dieu », certaines versions le traduisent « ayez la même foi que Dieu ». Au fait, là où Jésus nous attend, c'est d'avoir exactement la même foi de Dieu, ce mot « pistio ». Pistis, c'est exactement ça, c'est-à-dire Dieu, il a une foi, Jésus, il a exactement la même qualité de foi et il s'attend à ce que nous ayons exactement le même type de foi. C'est ce don de la foi, c'est ce don qui est infaillible, je dirais, parce que c'est la foi de Dieu. C'est le même type de foi. Et quand la parole de Dieu nous dit que Dieu a départi à chacun d'entre nous une mesure de foi, Dieu a départi en chacun de nous ce mot pistis dans chacun d'entre nous. C'est-à-dire, quand nous venons à Jésus, nous avons exactement le même type de foi que Dieu. Mais à cause des circonstances, à cause de ce qu'on vient de citer, nous perdons notre pistis et il se transforme en oligopistis ou carrément, ou sinon, en pistis. C'est-à-dire, nous perdons de cette qualité de foi que Dieu nous a donnée à cause des inquiétudes, à cause des raisonnements, à cause des phobies, à cause des peurs et toutes ces choses-là. Mais lui, il veut qu'on reste constant au niveau de la foi. Constant au niveau de la foi. Et le premier passage où ce don de foi est exprimé, Marc 2:5, Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Ce mot foi, c'est le mot pistis. Ce n'est pas une croyance générale, je crois qu'il va me guérir, mais c'est une foi agissante. Parce que la foi, le don de foi, ce n'est pas une incertitude, c'est une incertitude totale. Dieu l'a dit, il va le faire. Je ne vais pas savoir, je ne vais pas raisonner en moi-même pour savoir comment il va le faire. Il l'a dit, il va le faire. Je suis dans un besoin quelconque. Je crois que Dieu pourvoira à tous mes besoins selon richesse et gloire. Je vais fermer tout ce qui résonne en moi. Je vais cliquer dessus, il faut que ça s'arrête. Je ne raisonne pas. Je m'attends à Dieu pour qu'il intervienne. C'est ça la foi agissante. C'est ça la démonstration de la foi que Dieu nous donne. Et un autre passage, c'est Marc 4:40, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Et là aussi, il interroge, pourquoi vous n'avez pas le même type de foi que moi? Et pourtant, vous êtes supposé l'avoir. Il ne demande pas à ce qu'on produise quelque chose qu'il ne nous a pas donné. Il nous l'a donné, mais on n'a pas su le garder. Alors, quelle est maintenant la relation entre la parole et la foi? Et c'est là que ça devient aussi très intéressant. Romains 10:17, il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, pour avoir la foi, on est obligé d'aller dans la parole de Dieu pour puiser la foi. C'est comme si, quand on veut de l'eau, il faut aller puiser de l'eau là où se trouve l'eau. Donc la foi ne se trouve pas à l'extérieur, la foi ne se trouve pas dans les journaux, dans les médias, la foi se trouve dans la parole de Dieu, qui est la Bible. C'est là qu'on va puiser la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le mot « entendre » veut dire « or la foi vient d'une rencontre, d'une audience avec Dieu ». C'est important. La foi vient de cette rencontre de cœur à cœur qu'on a avec Dieu. C'est là qu'on puise, quand on lit les Écritures, c'est là que notre cœur rencontre le cœur de Dieu. C'est de là que vient la foi. La foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire, on l'a dit hier, l'organe de la foi, c'est l'oreille. Il faut entendre. La foi n'est pas silencieuse, la foi ne se communique pas dans le silence, la foi se communique d'une façon audible. À un moment donné, la parole nous parle, elle nous dit quelque chose et on entend. C'est pour ça que c'est important de lire la parole à voix haute, de l'écouter, de l'entendre. C'est comme ça que ça stimule et ça engendre la foi qui descend jusqu'à notre cœur. Et ce qu'on entend vient de la parole. Et c'est ce mot parole, c'est le mot rhéma. On sait que la parole, le mot parole est dit deux fois, soit le mot logos, c'est juste de l'écriture, et le mot rhéma. Ce n'est pas le logos qui engendre la foi, c'est le mot rhéma. C'est-à-dire, c'est une parole en action. C'est une parole en action. Toutes les paroles qu'on lit dans la Bible, c'est du logos, c'est de l'information, mais on a besoin de ce rhéma, c'est-à-dire c'est le feu de Dieu qui descend sur sa parole, c'est Dieu qui insuffle la vie sur sa parole, et subitement la parole, elle sort de son contexte, elle commence à agir dans notre cœur et dans notre vie. C'est ce type de foi qu'il veut que chacun d'entre nous ait, possède. Et nous la possédons parce qu'il l'a départie en chacun d'entre nous. On voit que le mot réma apparaît 66 fois dans le Nouveau Testament, juste citer des passages pour essayer de comprendre. Matthieu 4:4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra point de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il le résume très bien. Donc, notre maturité, nous la tirons de la parole vivante du réma de Dieu. Un autre verset, aussitôt pour la seconde fois, le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, de la parole prophétique que Jésus a prononcée, de ce réma qu'il lui a dit, il s'en est souvenu. Un dernier passage, Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. Et le mot impossible, c'est aussi celui qui donne le réma. Rien n'est impossible à Dieu. Parce que la foi ne se contente pas, Dieu peut-être, la foi, elle proclame toujours, rien n'est impossible à Dieu. Peut-être c'est difficile, mais rien n'est impossible à Dieu. Jean 12, 47, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Donc les paroles qu'on doit garder en nous de Jésus, c'est ce réma. Maintenant, c'est quoi la vraie foi ? Il y a une définition. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi, c'est une assurance. Ce n'est pas une assurance mitigée, c'est une assurance qui est ferme. Mais ce n'est pas suffisant. Pour parler d'une véritable foi, il faut qu'il y ait une démonstration. Il faut qu'il y ait une action. Je crois, il faut qu'il y ait une démonstration à ce que je crois. Je proclame, je confesse, il faut qu'il y ait une démonstration à ce que je crois, à ce que je confesse, sinon c'est pas de la foi. Donc il faut qu'on travaille, peut-être que chacun d'entre nous sommes dans cette première étape, dans cette ferme assurance, mais il faut qu'on travaille pour qu'il y ait à chaque fois systématiquement une démonstration à notre foi. Parce que juste croire sans une démonstration, ce n'est pas de la foi. Et la Bible nous dit que les démons croient aussi. Mais ils font rien. Ils font que trembler. Ils s'attendent pas à une démonstration de leur foi. Ils font que trembler. C'est-à-dire quelque part, si nous restons que sur ce niveau de croire, on n'est bon à rien. Et Dieu veut nous faire grâce de rentrer dans cette deuxième étape qui est la démonstration. Et pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est-à-dire, pour être favorable à Dieu, pour être agréable à Dieu, pour être agréé par Dieu, pour être entendu par Dieu, il faut avoir possédé cette foi. Parce qu'il nous dit que des anciens qui nous ont précédés, ils ont possédé ce même type de foi que Dieu lui-même a. Vous savez, c'est comme les forfaits qu'on prend par-ci, par-là. Des fois, on prend un forfait qui n'englobe pas tout. C'est un forfait au rabais, juste une petite option. Et c'est comme ça pour la foi. On a pris un forfait, vraiment la plus petite option, c'est celle qui ne dérange personne. Mais Dieu veut qu'on prenne le forfait complet, entier, où il y a toutes les options. Toute option, c'est ça la démonstration de la foi. Et on a tous besoin de percer sur ce niveau-là. Et je crois qu'il faut que ce matin, qu'on fasse un pas, qu'on sorte de cette foi, de cette croyance générale, et qu'on fasse un pas, et qu'on rentre dans ce même type de foi que Dieu lui-même a et qu'il exige de nous. Ça va, vous êtes là? Qu'est-ce que c'est maintenant la foi des anciens? Hébreux 12, 6 nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, si je m'approche de Dieu, il faut que je croie que Dieu existe. Et là aussi, il va y avoir une démonstration de ma foi, c'est que Dieu va me rémunérer. C'est-à-dire, Dieu va me donner un chèque équivalent à ma foi. Voilà, là vous commencez à réagir dès qu'on parle de chèque. C'est, vous savez, la foi, c'est... Allez, on prend la même chose. La foi, c'est comme un chèque sur lequel, admettons, vous avez mis 1 million d'euros. Mais si vous ne l'avez pas encaissé, ce n'est que du papier. Et c'est exactement ça. Notre foi, il ne faut pas qu'elle reste juste un support, il faut qu'elle soit suivie d'une démonstration, quelque chose de concret. Donc pour être agréable à Dieu, il faut vivre cette démonstration. Il dit, les anciens, ils l'ont possédé. Ceux qui nous ont précédés ont vécu ce même type de foi. On va essayer de détailler un petit peu toutes ces choses. Alors, il nous parle d'abord d'Abel. Abel offrit à Dieu un sacrifice, il y a une conséquence, il a été déclaré juste. Quand nous faisons des offrandes, dans la foi, il y a cette justice de Dieu qui vient, même si nous sommes déjà justes en Jésus, mais Dieu déclare que nous sommes justes. Enoch fut enlevé, il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Enoch, la parole de Dieu nous a dit, il a marché 300 ans avec Dieu. Il était tellement proche de Dieu que Dieu ne supportait plus de vivre sans Enoch. Et Dieu l'a enlevé. C'est un enlèvement, c'est un rapt. C'est ça. Dieu, à un moment donné, avait du mal à se séparer d'Enoch. Ils étaient trop proches l'un de l'autre. Vous savez, c'est comme le matin, quand on vient à l'église, on vous voit venir. Mais petit à petit, vous vous approchez de la porte de l'église, à un moment donné, vous disparaissez dans l'église. Et c'est ce qui s'est passé avec Enoch. Il s'approchait de plus en plus de Dieu, de plus en plus. À un moment donné, il a disparu en Dieu. Et il y a une conséquence. Il a reçu un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il a reçu une démonstration de sa foi et de sa relation. Noé, il devint héritier de la justice à cause de sa foi. Abraham, Sarah, Isaac et Jacob, ils sont devenus co-héritiers de la même promesse. Moïse, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande, il a cru, il a reçu cette richesse de Christ. Rahab, la prostituée, ne périt pas. Elle a cru dans les émissaires que Dieu a envoyés. Elle n'a pas péri. Imaginez, je l'ai déjà dit, imaginez qu'un jour comme ça, allez, disons par hasard, 20 prostituées arrivent dans l'église. Qu'est-ce qu'on va en faire? Il y a certaines églises qui vont leur dire, ne rentrez pas, vous n'êtes pas purs. Et pourtant, la parole nous dit que cette prostituée a été justifiée par la foi. Elle n'a pas péri à cause de sa foi. Dieu ne s'est pas occupé de sa prostitution. Dieu a regardé sa foi. Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Voilà le type de foi qu'avaient les anciens. C'est qu'ils vainquirent des royaumes. Ils sont rentrés dans des victoires. Ce ne sont pas juste des victoires de leur propre territoire, mais ils ont envahi des territoires ennemis et ils ont pris des royaumes. Voilà ce que peut faire la foi. Parce que la foi, ce n'est pas uniquement croire en Dieu, mais c'est une foi à un moment donné qui se traduit sur le terrain. C'est l'avancement de l'Église. C'est les victoires dans lesquelles l'Église, elle va rentrer d'une façon aussi territoriale, parce qu'il y a des territoires que l'Église, elle doit apprendre. L'Église a perdu trop de temps, trop de territoire. Je crois qu'on est aussi dans ce temps où Dieu donne de la foi pour maintenant rentrer dans ses victoires, vaincre des royaumes. Autre chose, ils exercèrent la justice. L'une des conséquences de leur foi, comment ils ont été agréables à Dieu, c'est qu'ils ont exercé et ils ont exercé la justice. Ils ont obtenu des promesses. Je me rappelle, il y a plusieurs années de ça, on vivait dans un immeuble à l'avant-dernier étage, et à l'avant-dernier étage, vraiment, c'était une grâce de Dieu. On avait toute la baie, la mer en face, c'était extraordinaire. On voyait le coucher du soleil, c'était quelque chose de fantastique. Et puis un jour, je ne sais pas, contre toute attente, un jour sont arrivés des machines, des tracteurs, et juste à 30 mètres de l'immeuble, ils sont venus construire un deuxième immeuble là-bas. Et de la même hauteur que le nôtre, c'est-à-dire la belle vue et tout ça, le soleil, tout ça, c'est fini. Avec ma femme, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On a commencé à prier. On a commencé à prier, à développer ce même type de foi. Si vous ordonnez au monde, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, que vous ordonnez aux montagnes de se déraciner et de se jeter dans la mer, il vous sera fait ainsi. On dit, mais c'est écrit, on va essayer de faire la même chose. On a commencé à ordonner à cet immeuble, au nom puissant de Jésus, tu te déracines et tu vas te planter là où tu veux, tu as le choix, mais tu restes pas ici. Et tous les jours on le faisait, et plus on le faisait, plus les travaux avançaient. Plus on le faisait, plus les travaux avançaient. À un moment donné, on s'est dit, non, on arrête, on va plus regarder l'avancement des travaux, on va juste fixer nos yeux sur le Seigneur, on va continuer à prier. Un jour, contre toute attente, le matin, les ouvriers ne sont pas venus. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? Le lendemain, ils sont toujours pas venus. Une semaine après, plus personne. Un mois après, plus personne. Quand on s'est renseigné, on a dit, ah, il y a un problème dans la construction de cet immeuble. Manque de peau, c'était un territoire limite entre deux communes. Les deux communes se disputaient le territoire. Alors la justice a dit, puisque vous voulez pas vous entendre, on annule les travaux. Ils sont venus, ils ont tout détruit, tout ramassé, ils sont partis. Amen. Je crois qu'il faut, qu'on ose. Il faut qu'on ose sortir de notre bac où nous sommes en sécurité et rentrer. Je veux dire, la foi, c'est un risque. Il faut qu'on prenne ce risque. Il faut qu'on prenne ce risque et qu'on commence à exercer notre autorité, notre foi au nom de Jésus, que les choses arrivent. Autre chose, ils fermèrent la gueule des lions. Ici, les lions, c'est pas le lion de Juda qu'on a chanté tout à l'heure, c'est vraiment des ennemis. La parole de Dieu nous dit que le diable, il est comme un lion rugissant, il rôde autour de nous, il cherche qui dévorer. Et David a donné une démonstration de comment combattre le lion, comment combattre l'ours. Notre foi doit nous amener à des combats comme ça, des combats victorieux, et on sort sans blessure, sans rien du tout. Souvent, on finit des luttes, des combats spirituels complètement chaos, complètement brisés. Et c'est pas ça la volonté de Dieu. La foi, elle triomphe sans blessure. Amen. Sans aucune égratignure. Sans aucun cheveu ne tombe. Au contraire, je reviens avec un butin. Ils éteignirent la puissance du feu. La parole de Dieu nous dit que le bouclier de la foi, il sert à éteindre les flèches enflammées que le diable envoie sur nos vies. Tous les jours, nous recevons des flèches enflammées. Mais parce que nous avons laissé tomber notre bouclier, parce que nous l'avons laissé ranger à la maison ou je ne sais pas où, alors nous devenons vulnérables à toutes les flèches. Alors qu'il dit que si simplement nous avions sur nous notre bouclier de la foi, nous allons arrêter ces flèches enflammées qui sont tirées contre notre vie tous les jours. Tous les jours, ils tirent contre nous. Alors c'est le moment de relever ce bouclier de la foi. Il est infaillible, impénétrable. Même si on nous tire avec des balles réelles, la parole de Dieu nous dit que le bouclier de la foi va nous protéger de toutes ces choses-là. Échapper au tranchant de l'épée, guérir de leur maladie. Par la foi, ils guérirent de leur maladie. On a vu ce week-end qu'il était possible d'être guéri sans qu'on prie pour vous, sans qu'on vous impose les mains. Plusieurs ont guéri juste. Ils ont exercé ce pistis, cette foi, ce même type de foi que de Dieu, et ils étaient guéris. Tout à l'heure, j'avais simplement l'impression que quelqu'un avait des renvois gastriques régulièrement, qui souffle de ce reflux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ce reflux gastrique qui sont gênants, qui veut être guéri maintenant ? Qui a ce problème ? Levez-vous simplement. Croyez simplement, au nom de Jésus, maintenant, à cause de cette foi que nous proclamons ce matin, je proclame la guérison par l'autorité et le nom de Jésus, nous ordonnons à ce reflux gastrique maintenant de disparaître, soit asséché au nom de Jésus. Je proclame la fin de ce stress qu'il y a dans l'estomac au nom de Jésus. Que toute chose soit rétablie maintenant. Amen. Furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Quand nous sommes envahis, nous proclamons notre foi, nous prenons notre bouclier de la foi, nous disons, nous proclamons la parole de Dieu, le réma de Dieu, ce que Dieu dit, ce qu'il est, ce qu'il peut faire, ce qu'il a fait et ce qu'il est au milieu de nous. Ensuite, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. On en a parlé ce week-end, des femmes, on ne sait pas quelles femmes, des femmes anonymes qui n'avaient aucun titre, des femmes peut-être sans instruction, des femmes sans aucun niveau social. Il n'est pas dit des femmes de distinction, il dit des femmes, on ne sait pas de qui il s'agit. Recouvrèrent, ils ont exercé l'autorité pour ressusciter des morts. Waouh, c'est ça la foi agissante. Ce n'est pas celle qui a les mains dans les poches et elle attend que le ciel lui tombe dessus, mais c'est elle qui prend les devants. Combien de femmes il y a au milieu de nous qui ont des enfants et qui sont loin du Seigneur? Combien ont besoin que leurs enfants reviennent ce matin au Seigneur? Donc si vous êtes là ce matin, vous voulez que votre enfant, votre tante, votre oncle, votre parent qui connaît pas Jésus, qui a besoin de connaître Jésus, si vous voulez exercer la résurrection, de dire de passer de la mort à la vie, maintenant levez-vous. Levez-vous et commencez à appeler. Commencez à exercer votre foi. Commencez à appeler ceux qui sont dans les ténèbres à venir à la lumière maintenant. Allez-y, commencez de tout votre cœur. Exercez cette autorité au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nommez ces personnes et dis-lui au nom de Jésus, sors de tes ténèbres et viens à la lumière. Sors de tes ténèbres et viens à la lumière. Quitte ce tombeau et viens à la vie dans le nom de Jésus. Nous appelons maintenant au nom puissant de Jésus tous ces bien-aimés qui ont besoin maintenant de recevoir la lumière du Fils de Dieu maintenant. Venez dans le nom de Jésus. Venez à la lumière maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous te remercions Seigneur. Alléluia. Merci pour les anges de Dieu que tu libères dans ces actes de foi. Merci pour les anges qui viennent défaire les chaînes, qui viennent défaire les chaînes de ceux qui sont enchaînés ce matin au nom de Jésus. Et merci pour la délivrance. Merci Seigneur pour le salut que tu répands au nom de Jésus. Amen. Amen. D'autres, toujours dans l'anonymat, livrés au tourment, ils n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. C'est du jamais vu. Des gens qui avaient le même type de foi, à un moment donné, ils ont dit, nous refusons la délivrance. Nous refusons la délivrance parce que nous savons que si nous sommes morts, si nous sommes délivrés, un jour il va arriver que nous serons morts. Mais nous, c'est pas ce type de délivrance que nous voulons. Nous voulons la dernière résurrection, celle où nous allons monter au ciel et rencontrer le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Des gens ont fait un choix. Ils ont dit, je préfère être enchaîné, mais il n'est pas question. Il y a une meilleure résurrection. C'est un choix dans les attributs ou dans les attributions, dans les récompenses que Dieu nous donne. On en a parlé tout à l'heure. Dieu rémunère. Il y a un choix. Est-ce que tu veux juste cette rémunération au rabais de ta foi ou est-ce que tu veux une meilleure résurrection? C'est un choix qu'on doit faire. Et ce choix, des fois, il est douloureux. Non, moi, c'est pas ce que je veux. J'ai prié pour avoir un travail juste à 30 mètres de la maison et je l'ai eu à 50 mètres de la maison. Est-ce que tu veux ce 50 mètres ou tu veux ce 30 mètres? Mais ce 30 mètres, la porte est fermée. Qu'est-ce que je fais? Je continue à prier. Je veux une meilleure résurrection. Seigneur, je veux pas me contenter de ça. Je veux une meilleure... J'ai prié, il y a eu 3 malades qui sont guéris. Seigneur, c'est bien, mais moi, je veux une meilleure résurrection. Et on a prié, on a eu des dîmes, des offrandes. Seigneur, on veut plus parce que tu nous as donné d'autres projets. C'est là qu'on doit exercer notre foi. C'est là qu'on doit... Il y a des rémunérations différentes. Et on doit exercer notre... Pourquoi? Parce que Dieu veut le meilleur pour nous. Dieu veut le meilleur pour nous. Dieu veut la première classe pour chacun d'entre nous. Dieu ne veut pas de quelque chose de seconde classe. Dieu veut toujours le meilleur pour nous. Je ne veux pas, j'ai besoin d'une voiture. Je ne veux pas acheter de voiture d'occasion. Seigneur, je veux la meilleure voiture qui puisse exister. Pourquoi? Vous avez déjà vu Jésus acheter une voiture d'occasion? Quel type d'âne il a demandé? Il a demandé un âne sur qui personne ne s'est assis. Amen. Voilà le type d'excellence que manifeste la parole de Dieu. Voilà le type d'excellence. Il ne faut pas que je m'engouffre dans ce passage, sinon je ne vais pas en finir. Subir des moqueries, ils ont accepté, ils ont eu le même type de foi que Dieu, que Jésus, ils ont accepté des moqueries comme Jésus, il a accepté les moqueries, les fouets, les crachats sur son visage, ils avaient le même type de foi. Ils voulaient souffrir comme leur propre Seigneur a souffert, ils ont dit nous. On veut, on accepte ça. On a la foi pour inverser les choses, mais on a tellement de foi qu'on veut vivre ce que notre Seigneur lui-même a vécu. Le fouet, les chaînes et la prison, ils avaient la foi pour sortir de leur prison. Ils auraient pu appliquer ce que Paul et Silas ont fait en prison, ce que Pierre a fait en prison, commencer à louer Dieu ou à intercéder à un moment donné. Les portes des prisons s'ouvrent, le tremblement de terre vient. Non, dis-nous, on veut pas ça. On veut une meilleure résurrection. On veut une meilleure récompense. Je ne veux pas une liberté temporaire, je veux une liberté définitive. Je veux être libre des chaînes de ce monde. Ils furent lapidés, ils furent sciés. Sciés. Vous vous rendez compte? Le même type de foi que Dieu. Et ils ont dit, non, on préfère être sciés. Avec une tronçonneuse, sciés. Le corps découpé en morceaux. Je m'appelle toujours de ces témoignages, il y a plusieurs années de ça, un ancien musulman qui s'est converti à Jésus, il a commencé à témoigner partout, et à un moment donné, il sentait que le feu du premier amour a disparu. C'est devenu que de la redite, de la pure religion. Il a commencé à crier à Dieu, Seigneur, redonne-moi le feu du premier amour. Redonne-moi le feu du premier amour. Et Dieu lui a redonné le feu du premier amour. Et son témoignage était exceptionnel partout au milieu des musulmans fanatiques et témoignaient de la grandeur de Dieu. Un jour, des islamistes l'ont pris, l'ont allongé par terre. Ils l'ont entouré de dynamite. Ils ont tout dynamité. Et il est parti. Parce qu'il voulait une meilleure résurrection. Parce qu'il voulait une meilleure. Il a accepté cette souffrance. Il a accepté d'être scié, d'être dynamité. D'autres ont été torturés, moururent, tués par l'épée à cause de leur foi. Parce que nous, on connaît que le versant spectaculaire de la foi. Mais il y a aussi un autre versant spectaculaire de la foi. Mais cette fois-ci, on laisse la puissance de Dieu passer et la volonté suprême de Dieu s'accomplir. Allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce que leur avait été promis. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu accepter cette démonstration de leur foi temporaire. Mais ils ont voulu quelque chose d'incorruptible. C'est un choix qu'ils ont fait. C'est un choix qu'ils ont fait. Peut-être que Dieu, dans les temps à venir, il va nous simplement demander, est-ce que, à cause de ta foi, est-ce que tu vas accepter d'être dépouillé? Est-ce que tu vas accepter d'être dépouillé de quelque chose qui est juste, qui t'appartient, qui te revient? Est-ce que tu vas accepter d'être dépouillé un temps pour être revêtu après de quelque chose d'incorruptible? C'est un verset poignant pour moi. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Quelque part, c'est à cause de nous ce matin qui sommes ici que Dieu ne les a pas exaucés. Parce qu'il disait, il est impossible que je vous laisse arriver à la perfection sans la présence de tous ceux qui sont là ce matin. C'est à cause de nous. Dieu dit, non, la perfection, vous êtes obligés d'attendre jusqu'au jour où la trompette finale va sonner. Et à cause de nous, Dieu dit, vous ne serez pas exaucés comme vous aurez souhaité. Maintenant, j'aimerais conclure simplement avec ce verset. Hébreux 12 au verset 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, c'est-à-dire ces anciens qui nous ont précédés, rejetons le fardeau, tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est sur ça que j'aimerais terminer ce matin, parce qu'il ne s'agit pas de faire une introspection pour chercher ma foi, mais la parole de Dieu nous dit que le chef de la foi, c'est Jésus. Le chef et le consommateur de la foi, c'est Jésus. Et ici, la parole de Dieu nous encourage à lever nos yeux. À lever nos yeux, regarder à Jésus, ayant les regards sur Jésus, non pas sur nos faiblesses. Ayant les regards sur Jésus et non pas sur nos imperfections. Et Dieu seul sait qu'on a des imperfections. Parce que quand on garde les yeux fixés sur Jésus, c'est sa foi en lui qui descend. À chaque fois que, c'est comme si quand une batterie est affaiblie, à chaque fois qu'on la recharge, elle redémarre. À chaque fois que ma foi affaiblit, à chaque fois que je repose mes yeux sur Jésus, alors ma foi est régénérée. Alors ma foi redevient exactement le même type de Jésus. Il est le chef et le consommateur de notre foi. Il est le maître de notre foi. Il est le Seigneur de notre foi. Jamais qu'on finisse simplement ce matin, simplement pour ceux qui le souhaitent de se lever et vraiment commencer à regarder à Jésus. Commencer à regarder à Jésus. Seigneur, tu sais où est ma foi. Mais ce matin, je veux regarder vers toi parce que je sais qu'en regardant vers toi, je sais que ma foi, elle est ranimée. Je sais que ma foi, elle est ranimée. Ce matin, Seigneur, je veux aussi abandonner la peur. Ce matin, Seigneur, je veux abandonner les inquiétudes. Ce matin, je veux abandonner, Seigneur, la peur de manquer. Je veux abandonner toutes ces choses, Seigneur, qu'on a nommées ce matin. Seigneur, je veux les abandonner. Je veux les abandonner. Tous ces ennemis de la foi, Seigneur, je veux les abandonner ce matin. Merci parce que tu interviens. Merci parce que tu interviens dans ma propre vie. Merci parce que tu interviens. Et ce matin, Seigneur, te demandons pardon pour les inquiétudes. Te demandons pardon pour les inquiétudes qui ont gagné notre cœur, qui ont gagné notre vie tous les jours, Seigneur. Te demandons pardon pour la peur, pour les phobies. Nous te demandons pardon pour le doute et nous te demandons pardon pour les raisonnements, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, à nouveau ce matin, comme nous avons proclamé et chanté. Remplis-nous à nouveau, Seigneur, de la même foi de Dieu. Remplis-nous de cette foi qui triomphe. Remplis-nous de cette foi, Seigneur, qui apporte la délivrance. Remplis-nous de cette foi, Seigneur, qui transporte les montagnes. Merci, Seigneur, pour de replanter dans le cœur de chacun d'entre nous ce matin ce grain de senevé. Au nom puissant de Jésus, que ce grain de senevé, cette petite foi qui a de la puissance pour dire aux montagnes, au nom de Jésus, déracine-toi et jette-toi dans la mer. Je vous encourage ce matin, vous parlez à vos difficultés avec cette foi maintenant et vous dites à ces difficultés, au nom de Jésus, maintenant déracine-toi et jette-toi dans la mer. Quelle que soit ton autorité, quelle que soit ton ancienneté, quelle que soit la gravité de ce problème, au nom puissant de Jésus, parle à ton problème, nomme-le et parle-lui. Au nom de Jésus, maintenant, déracine-toi. Jette-toi dans la mer. Je ne te veux plus dans ma vie. Je me sépare de toi au nom de Jésus. Je me sépare de toi dans le nom puissant de Jésus. Si c'est une maladie, tu dis maladie au nom de Jésus. Déracine-toi maintenant. Jette-toi dans mon corps. Si c'est un problème de dette, il y a plusieurs qui ont des dettes et qui ont besoin. Maintenant que Dieu vous délivre. Maintenant que Dieu vous délivre, commencez à exercer votre autorité. Parlez à cette dette. Au nom de Jésus, maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer, mais déracine-toi, je refuse de m'inquiéter, je refuse d'avoir peur, je refuse de paniquer, d'avoir peur de perdre mon boulot. Au nom de Jésus maintenant, pars au nom de Jésus, pars maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Père. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de vendre un bien, est-ce que c'est une maison ou autre chose qui ne se vend pas, qui a du mal à se vendre? Est-ce que quelqu'un a quelque chose comme ça? Est-ce que deux personnes, je crois qu'il y a une parole de Dieu pour vous ce matin, que si vous exercez votre foi, votre bien sera vendu dans un délai très proche et au prix que vous aurez souhaité sans perdre un seul centime. Si vous le croyez, priez maintenant comme ça. Je prie comme ça au nom de Jésus que maintenant ces biens puissent être vendus au temps convenable, comme tu l'as dit Seigneur, sans qu'ils aient à perdre quoi que ce soit, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais qu'on prie ce matin pour toutes les personnes, et je sais que toutes les personnes qui ont un salaire insuffisant, est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous voulez plus? Amen. Priez qu'il se passe quelque chose dans les temps à venir. Commencez. L'or et l'argent appartiennent à qui? 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 Alors nous prions ce matin au nom de Jésus, où se trouve cet argent qui puisse venir? Je prie au nom de Jésus qu'il y ait des augmentations de salaire dans les semaines qui viennent, Seigneur. Que la justice de Dieu vienne à cause de la foi, Seigneur, qu'il y ait une rémunération, une rétribution, Seigneur, dans chaque salaire où il y a besoin d'un sérieux, pas coup de pouce, mais d'un sérieux coup de pied, Seigneur. Quelque chose qui booste ce salaire, Seigneur, afin que l'Église aussi en soit enrichie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 On veut aussi prier pour tous les frères et toutes les sœurs qui ont besoin de se marier et qui ne trouvent pas de conjoint. Je prie simplement ce matin, croyant dans la foi, au nom de Jésus, nous prions maintenant au nom puissant de Jésus que dans les temps qui viennent, que tes projets s'accomplissent. Que tes projets s'accomplissent au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que tes projets s'accomplissent. Amen. Amen. Je sens, je ne vais pas faire appel, mais je sens qu'il y a des problèmes aussi de stérilité dans le couple. S'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des enfants, que la puissance de Dieu intervienne. Vous posez simplement votre main sur votre corps et vous commandez au nom de Jésus. Comme l'ange a dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, ta femme sera enceinte. Et vous proclamez cette parole, l'année prochaine, à la même époque, j'aurai un enfant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Simplement sur le cœur de prier que je crois que Dieu veut donner aussi une faveur plus excellente à cette église par rapport aux autorités. Quelque chose que vous n'avez encore jamais vécu. Je sais que des portes sont déjà ouvertes, mais il y a une faveur exceptionnelle que Dieu veut donner aux yeux des autorités. Alors ce matin, vous tendez votre main et vous priez avec foi. Au nom puissant de Jésus, que cette faveur maintenant arrive. Nous parlons au cœur de ces autorités. La parole de Dieu nous dit que le cœur des rois est comme un courant d'eau que le Seigneur incline comme il veut. Que tu puisses incliner le cœur de ces autorités comme tu veux, au nom puissant de Jésus. Maintenant qu'il y ait des flammes de feu qui descendent sur ton peuple, des flammes de feu de ta puissance qui visitent ton peuple puissamment ce matin, au nom puissant de Jésus. Qu'il y ait des baptêmes de feu, des baptêmes du Saint-Esprit, des délivrances. Que les chaînes tombent ce matin, au nom de Jésus. Que les chaînes tombent maintenant. Que les maladies disparaissent. Que la pauvreté parte maintenant dans le nom puissant de Jésus. Souffle l'Esprit de Dieu ce matin. Souffle puissance de Dieu. Touche ton peuple maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Chaînes tombées, tombées, tombées. Que toutes les chaînes tombent. Que les insomnies partent. Que les dépressions partent ce matin au nom puissant de Jésus. Exercez votre foi. C'est le moment de vous battre. Le royaume de Dieu est forcé par des violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alors exercez votre foi. Ne regardez pas votre problème. Regardez à Jésus qui est le chef de la foi. Il est le chef de la foi. Alléluia. Koriana mashakara baba batakara ba. Rodo doshikaria mahanda la barakara. Merci pour ta puissance. Merci pour ta délivrance. Merci pour ta délivrance. C'est comme ce poirier ou ce pommier qui a besoin d'être secoué ce matin. Il y a du fruit pour nous. Il y a du fruit pour nous que Dieu veut donner. Mais il faut que ce matin, on secoue ces choses. Au nom de Jésus, ces fruits nous appartiennent. Cette délivrance nous appartient. Au nom de Jésus, Koriana Mashakaraba, Rododoko Dabashikariatako, Rododoko Rababashaka. Osez demander maintenant. Osez demander. Osez demander. Osez demander. Osez demander ce que vous n'avez jamais demandé. Ayez un grand appétit. Ayez un grand appétit. Demandez des choses impossibles. Demandez tout ce que vous demanderez dans la prière. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ne demandez pas des petites choses. Ne demandez pas des choses mesquines. Mais demandez le pain des enfants. Celui que Dieu a pour nous. L'excellence de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, merci pour ton intervention. Merci pour ta vie ce matin. Merci pour les cieux qui sont ouverts. Merci pour les anges de Dieu qui montent et qui descendent au milieu de nous. Merci pour les trésors qui descendent du ciel. Merci pour les réponses, les délivrances qui viennent du ciel dans le nom de Jésus. Merci, merci Seigneur. Merci parce que les anges de Dieu puissants sont libérés au milieu de ton peuple ce matin. Des anges d'une force exceptionnelle sont libérés. Des anges qui viennent labourer où ça a été dur. Des anges qui viennent déminer, mettre de la dynamite là où il faut pour que ça explose. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, travaillez avec ces anges qui sont là. Travaillez avec ces anges qui sont là dans le nom puissant de Jésus. Travaillez, travaillez. Alléluia. Je sens que le Seigneur, comme il existe dans le monde, un label de qualité, que dans les temps, dans les semaines qui viennent, Dieu va donner à cette église comme un label de qualité que tous verront. Croyez que Dieu peut le faire. Alléluia. Continuez à prier, continuez. Si vous avez la foi d'aller prier pour quelqu'un, allez prier avec quelqu'un. Ordonnez que les choses arrivent. Ordonnez que les choses arrivent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Koriyama shikaraba. Rododokoyama shikarama. Merci Seigneur pour ton intervention. Dieu des miracles, étends ta main. Étends ta main ce matin afin qu'il s'accomplisse des guérisons, des signes et des prodiges par ton saint serviteur Jésus-Christ. Étends ta main ce matin Seigneur. Étends ta main afin que l'impossible devienne possible. Étends ta main afin que l'impossible devienne possible. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il y ait une délivrance sur les enfants, qu'il y ait une guérison sur les enfants, au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu répandes sur les enfants un esprit excellent, au nom de Jésus. Proclamez la délivrance de vos enfants, proclamez leur délivrance, que Satan ne les vole pas, que ce monde ne les vole pas, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Korabashaka, rotokoramatashi karababa. Merci pour la puissance de Dieu. Merci pour ta puissance qui envahit cette église. Merci pour la puissance de Dieu maintenant. Feu de Dieu sur toutes les chaînes. Feu de Dieu sur tous les problèmes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ne soyez pas timides. Soyez des violents. Soyez des violents. Soyez des violents. C'est les violents qui s'emparent du royaume. C'est les violents qui s'emparent du royaume. Alléluia. Il y a plusieurs qui vont avoir comme des douleurs d'enfantement. C'est le temps où Dieu va enfanter ces choses que tu as en toi. Laisse maintenant cette grossesse arriver à terme et qu'il y ait un enfantement maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout ce qui est dans les entrailles vienne à la vie maintenant. Que tout ce qui est dans les entrailles vienne à la vie. Que ces bébés que tu as donnés viennent à la vie maintenant. Ces visions que tu as données, qu'elles viennent à la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kariana Mashakaraba. Alléluia. Rodokoba. Shukariana Makarabara. Alléluia. Shokarabarabara kara. Alléluia. Pour l'école Daniel, je sens que le Seigneur vous dit, attendez-vous que dans les mois qui viennent, il va y avoir d'autres personnes qui vont venir, qui vont vous dire, c'est bien ce que vous faites, mais Dieu veut que vous alliez plus loin au niveau de l'école. Il y a comme un niveau supérieur où vous allez rentrer, et je crois que c'est quelque chose par rapport à une université chrétienne, que vous soyez vraiment dans cette expectative. Alléluia, merci. Merci. Au fur et à mesure qu'on prie, au fur et à mesure qu'on est dans une attitude de prière, de foi, Dieu envoie des choses. Alors continuez à prier, ne vous arrêtez pas. Continuez à prier. Vous ne dérangez que le diable. Dieu n'est pas dérangé. Vous ne dérangez que le diable. Dieu n'est pas dérangé. Alléluia. Koramashaka yaraba. Rotokamashaka rabababa. Encore. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Chassez l'atmosphère qui est à la maison. Si c'est une atmosphère négative, que ces nuages partent au nom de Jésus. Ces ténèbres partent au nom de Jésus. Que l'atmosphère qui bouffe la foi, la paix parte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Koramasha karababa. Arabashoka mande karababa. Merci pour le feu de Dieu. Merci pour ton feu ce matin. Merci pour ton feu qui descend sur ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Korama shotoko raba rada shakaraba. Roba baba korama mama shakarababa. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que la stérile qui n'enfante pas va enfanter cette fois. La stérile va enfanter cette fois. Que toutes les œuvres stériles maintenant commencent à prospérer. Que toutes les œuvres stériles commencent à prospérer dans le nom de Jésus. Alléluia. Koramashata karababa shakaraba. Alléluia. Merci Père Céleste. Merci Père Céleste. Je prie au nom de Jésus que maintenant ce niveau de foi reste le même tous les jours. Reste le même et que dans les secondes qui viennent, que dans les jours qui viennent, je sens que quelqu'un va avoir une multiplication dans son porte-monnaie. Je ne sais pas. Je sens que quelqu'un va trouver de l'argent qui n'était pas là, qui n'existait pas. Et je prie vraiment que dans les secondes, dans les minutes, dans les jours qui viennent, qu'on puisse goûter à la démonstration de ce que nous avons cru et proclamé. Amen.